Ce Noël, je me trouvais avec mon petit-fils, Raphaël, Dieu guérit, mais il pleurait dans mes bras. Hein, ma nuit n'était pas tellement silencieuse. Et il pleurait, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, c'est un cadeau, les petits-enfants, hein? Mais après une demi-heure de pleurs. Et donc j'étais inspiré, hein, parce que dans mon passé, j'ai été aussi papa, hein, d'un bébé. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'était la solution pour arrêter des larmes? Et donc tout d'un coup, il y a un chant qui a jailli en moi. Mon vélo, Jésus le guide, sûrement. Avec lui, je file, en chantant. Danger péri, je ne les craindrai plus, car au guidant sont les mains de Jésus. Avec lui, je file, en chantant. Oh, bravo! Et donc, mon vélo, Jésus, me guide. Et il s'est arrêté de pleurer. C'est vrai, j'ai tiré un peu ses jambes. Hein, mais. Et donc, pour mon petit-fils, c'était merveilleux, mais pour le reste de la famille, c'était l'enfer, parce que 24 heures, 7 jours sur 7, je chantais ça. Et tout le monde, pendant Noël, ils avaient ça dans leur tête. Mon vélo, Jésus. Et après, il y a Myriam qui m'a dit, mais Jésus n'est pas un vélo. J'ai dit, non, c'est l'autre démon. Mon vélo, Jésus, c'est vrai, c'est un peu. Et donc, ça c'est un peu mon message pour vous calmer. Hein, devant 2020, parce que je ne sais pas comment vous êtes devant les défis d'une nouvelle année, hein, mais qui conduit ton vélo? Mon vélo, Jésus. Mon vélo, Jésus. Donc, mon vélo, c'est ma vie. Hein. Hein, je vais rouler, je vais filer, hein, je vais aborder janvier, février, mars. Et donc, qui va me guider? Qui va me guider pendant 2020. Mon vélo, Jésus, le guide, sûrement. On peut être guidé à droite, à gauche. Je me lève le matin, il fait beau, je suis heureux, il pleut, je suis triste. Tiens, on n'est pas sûr, mais Jésus nous guide sûrement. Et vous savez qui est notre guide? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Faut être guidé par le Saint-Esprit. Je pense que c'était très bien pour les 12 apôtres, parce qu'eux, ils suivaient Jésus. Jésus dit, suis-moi. Il se lève et dit, on va là-bas, et ils le suivent. Ils pouvaient même suivre ses traces. Et on dit, mais oh, ça aurait été bien si Jésus était aussi présent comme ça. Mais il est présent, parce qu'il a dit, je ne vous laisse pas comme orphelin. Je viens vers vous. Il ne nous laisse pas sans guide. Mais lui, maintenant, il n'est pas là en chair et en os. Mais il est venu par son esprit. Il a envoyé son esprit sur l'église à Pentecôte. Et maintenant, le Saint-Esprit vit en nous. La présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu vit en nous. Et donc, peut-être c'est... Je ne pense pas que c'est plus difficile d'un côté, parce que même pour les disciples, Jésus n'était pas toujours là. Hein, il était là pour si peu de temps et quelquefois il était ailleurs. Quelquefois il marchait sur l'eau quand ils étaient ailleurs. Et surtout après sa résurrection, c'était difficile de le reconnaître quelquefois. Et maintenant Jésus est tout près de nous par la présence du Saint-Esprit. Il n'est pas juste historique. Il y a beaucoup de gens, ils ont un Jésus historique. Voilà le bonhomme qui a vécu, le petit bébé qui a vécu, qui est né il y a 2000 ans. Et tout le monde, d'un côté, on dit entre guillemets, est cousin du bon Dieu. Et on a une connaissance de Jésus-Christ, Noël, c'est magnifique. Mais est-ce que on a une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ça veut dire on se laisse guider. Et là, c'est à chacun de discerner tout ça. Mais moi, je vous donne quelques pistes pour être guidé. La relation avec Dieu, c'est une intuition. Quelquefois, vous avez des intuitions. Tu sais, on dit que les femmes ont l'intuition féminine. Hein? Mais moi, je dirais, il y a une intuition chrétienne où tu sais, ah, là, je dois faire ça, je ne dois pas faire ça. Et je veux dire, cultiver cette intuition. Cultiver cette intuition. C'est aussi la communion, bien sûr, la communion. Tu sais, quand quelquefois je suis devant ma femme le soir, sans parole, on est ensemble. Tu sais, on est assis dans un bon divan, là. Et il y a une communion, sans parole. Elle est là, elle est là, elle est là. Et ça, c'est aussi le Saint-Esprit. On a ces moments de communion. Quelquefois, il faut faire taire un tas d'autres voix, un tas d'accusations. Mais on sent qu'il y a une présence au-delà des paroles. Et là, il y a cette communion qu'on peut cultiver, la communion, la présence de Jésus-Christ avec nous par le Saint-Esprit. La communion. Après, il y a la conviction. On peut, j'ai attristé Dieu par cet action. Ah, j'ai mal fait. Et tout de suite, tac, quelquefois, c'est comme une piqûre. Et c'est là où on doit courir, comme Didier nous a si bien présenté, vers le sang de Jésus, vers la grâce qui nous pardonne. Et il y a des manières de soutenir cette communion, bien sûr, la parole de Dieu, l'adoration, le silence, l'écoute, juste de trouver sa communication, sa communion personnelle avec Dieu. Et donc, mon vélo, ma vie, Jésus le guide par son Saint-Esprit. Sûrement, avec lui, je file. Hein? Qu'est-ce qu'on va, c'est dynamique d'être avec Jésus. C'est pas passif. On file avec lui, je file. Mais qu'est-ce que c'est la clé là? Avec lui. C'est les dernières paroles de Jésus à ses disciples avant de les quitter. C'était, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous tous les jours par le Saint-Esprit. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à son retour, en personne. Mais il est avec nous tous les jours, lundi, mardi, mercredi, pas juste dimanche, tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Et donc pour le début d'une année, je trouve ça un beau verset d'encouragement. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Avec lui, Emmanuel, Dieu avec nous. Avec lui, je file. En chantant. Ah, l'adoration. D'avoir un chant dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur chant. Tu sais, il y a les gens, ils ont des petits oiseaux en cage. Hein, et quelquefois, les oiseaux chantent pendant la journée, quand le soleil se lève. Et je sais que pour les endormir, il fallait mettre un drap. Non? Il fallait s'approcher. Et je pense que quelquefois, il y a des circonstances de la vie, des choses tristes qui nous arrivent. Et c'est comme si quelqu'un est venu couvrir notre cœur avec un drap, avec une sorte de voile de tristesse. Et on arrête de chanter. Notre cœur arrête de chanter. Et vous savez, être chrétien n'est pas juste avec la tête, avec la bonne théologie, c'est important. Hein, veiller sur ta vie et ta doctrine, bien sûr. Mais c'est une question d'avoir un chant dans le cœur. Il ne faut pas s'arrêter de chanter. Et même pour les Silas, quand ils étaient là dans l'évangélisation en Philippie et en Turquie, là, ils étaient là, ils avaient été flagellés, ils étaient en prison, rejetés. Et qu'est-ce qu'il dit? À minuit, ils commencent à chanter. Et je dirais de garder ce chant dans le cœur, parce que le chant, c'est l'espérance. Le chant, c'est l'espérance. Ça ne veut pas dire que vous devez littéralement chanter, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui chante l'espérance. Et pendant cette sainte scène, c'est vrai, il ne faut pas jamais minimiser la croix et le rachat de Dieu de nos âmes, la défaite de Satan par le sang de l'agneau et le pardon de nos péchés. Tout ça, c'était quelque chose acquis éternellement. Mais il est ressuscité aussi. Il n'est pas resté sur la croix. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai trouvé ça assez beau d'avoir un moment de célébrer la résurrection pendant cette commémoration de sa mort. Et ça, c'est le chant de l'espérance. C'est que la mort est vraiment vaincue. Et ça, c'est un chant de résurrection. Un chant, même si tout est cassé, j'ai quand même une espérance. Jésus-Christ, il m'aime et il est ressuscité. Et j'ai ma place avec lui. Et donc avec lui, je file en chantant. Danger, péril. C'est dommage que Béril n'est pas ici, parce que je voulais faire une blague. Je voulais dire que quand Jean se lève le matin, il dit « Danger, péril, je ne les craindrai plus. » Mais péril, c'est pas quel... C'est les gens, ils ont peur d'une troisième guerre mondiale avec l'Iran, c'est tous les médias. On a toujours eu des guerres. Même Jésus, il a dit, vous allez entendre parler de guerre. Et après, il dit même, l'amour du plus grand nombre risque de se refroidir à cause de ce déferlement d'horreur et du mal. Mais après, il dit quelque chose de très positif. Mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et puis viendra la fin. Comme témoignage, ça sera prêché comme témoignage à toutes les nations. Et ça c'est... Même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est vrai, on peut regarder autour de nous, on allume la télé, il y a beaucoup de choses lourdes et difficiles. Mais il y a une chose hyper, hyper positive, c'est que cette bonne nouvelle avance dans le monde. Advienne que pourra, en France, tous les 10 jours, il y a une nouvelle église évangélique implantée. Tous les 10 jours en France, depuis 2 ans. Ça, c'est encourageant, non? On ne dit pas ça sur France 2, hein? Aux actualités de 20h. Bonne nouvelle! On ouvre des cellules de salut partout. Des cellules d'adoration, des cellules du royaume. Une chaque 10 jours. Vous pouvez vérifier tout ça. Mais c'est encourageant. Et ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite. Et donc, même si... Oh, ça ne va pas la France. Oh, c'est nul, c'est dur. D'accord, mais pour moi, une église chaque 10 jours. Une nouvelle église qui s'ouvre. Donc à Thumry, il y a une nouvelle église qui s'ouvre. Ah, c'est bien. Et peut-être à Libercourt, peut-être à l'avenir, ailleurs. Tu sais, ça peut être de nouvelles expressions d'église aussi, des maisons qui s'ouvrent. Mais là, c'est vrai, véritablement les associations culturelles. Hein. Et ça, c'est uniquement les gens qui sont dans le Kenef. Hein, il y a peut-être d'autres non déclarés, c'est sûr. Hein, surtout en France, hein, chacun peut commencer quand il veut. Mais c'est une bonne nouvelle. Et cet évangile progresse. Progresse. Et donc, danger, c'est vrai. Péril, je ne les craindrai plus. Je suis sans crainte. Et je vous souhaite 2020, une année sans crainte. C'est quand même dur. Parce qu'on est envahi par des paroles de crainte. Mais en Romains 8, 15, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, encore comme Didier nous a parlé de ça. On n'a pas reçu un esprit de servitude. Bon, on va le chercher, hein. Romains 8 et 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, hein, asservi, dominé par le péché, le mal, les maladies, les attaques, tout ça. C'est vrai que ça peut exister, mais ce n'est pas l'esprit que Dieu envoie sur nous. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, de légalisme, pour être encore dans la crainte. C'est pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, Père. Et ça, c'est le danger péri. Je ne les craindrai plus. Je ne les craindrai plus. Plus de crainte pour 2020. Parce que je n'ai pas reçu un esprit de servitude. Je ne suis pas un esclave. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et Dieu, il sait comment compter nos cheveux. Il sait comment nous guider. Et si nous passons par l'épreuve, c'est aussi pour quelquefois nous rendre meilleurs. Quelquefois on sort. Et qu'est-ce que j'ai à perdre même? Même l'apôtre Paul, il dit vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Et quand vous avez cette mentalité de ne pas avoir peur de mourir, parce que qu'est-ce que j'ai à craindre? Je serai éternellement avec Jésus-Christ. Éternellement, libéré. Avec une attente de toute cette œuvre future, ce royaume de Dieu pleinement incarné sur la terre, la Jérusalem céleste. C'est quel avenir merveilleux. Et donc danger, péril, et même béril. Je n'en crains plus. Car au guidant sont les mains de Jésus. Et est-ce que Jésus a ses mains sur votre guidon? Jésus, ses deux mains. Et j'imaginais les deux mains de Jésus. J'arrive au cœur de mon message maintenant. Les deux mains de Jésus. Voilà, qui dirige. Voilà, comme ça, deux mains. Sur mon cœur. Voilà, il dirige. Et donc, Jésus, ses deux mains sont comment? Voilà, on voit les deux mains percées. Hein, c'est les deux mains de rachat qui a payé le prix pour mon péché. C'est ces deux mains percées. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Il y a le pardon des péchés pour moi, le rachat. Et si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, il faut aussi dire, voilà, au lieu de conduire moi-même, il faut ouvrir votre cœur pour recevoir la rédemption, ces mains de rédemption qui vous embrassent. Et Jésus, il peut vous embrasser parce que ses mains ont déjà payé le prix pour toute horreur, pour tout éloignement, pour tout péché, pour toute addiction. Et c'est le signe, pas d'un amour à l'eau de rose, mais le signe d'un amour indestructible, éternel, solide. Cet amour qui se donne à l'autre. Et donc, laissez ces mains meurtries prendre l'autorité de votre vie. Je sais que c'est déjà fait pour la plupart d'entre nous. Mais encore dans ces deux mains, on peut regarder peut-être dans Jean 1, hein, l'évangile de Jean. Et avant, c'est toujours Noël, hein, un peu. Et donc, on voit ces versets. Hein, Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair. Hein, c'est la bonne nouvelle que Dieu n'est pas resté une idée abstraite, une philosophie. Il n'est pas resté quelque chose qui était transcendante, voilà, incompréhensible, même s'il y a un côté transcendant de Dieu, toujours. Mais il a dit, je vais être imminent, je vais venir. Et là, il est devenu un homme. Incroyable. Il a adopté une culture, la culture juive. Il est entré dans l'histoire. Il est entré dans l'histoire de l'espérance messianique d'Israël. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et en verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc, le guidant là, à gauche, je dirais la grâce. Et là, la vérité. C'est de conduire votre vie avec grâce et vérité. La grâce, c'est vraiment ce pardon, ce cadeau, l'amour donné sans payer, le pardon donné sans payer, le rachat donné sans payer. C'est la grâce. Et là, c'est dur quelquefois de juste recevoir. On doit vraiment recevoir. C'est plus facile de donner des cadeaux que de recevoir. Mais il ne faut pas dire ça. Il faut dire, je veux recevoir ce cadeau de vie. Et surtout, la loi a été donnée par Moïse, mais ça, c'était donnant. Il faut quand même faire ça, obéir à la loi et tout ça. Mais Jésus est venu et dit, moi, j'accomplis tout ça pour vous. J'accomplis la loi pour vous. Je prends aussi tous vos péchés sur mon dos et je vous donne ma vie en échange. Je vous justifie. Je vous donne ma justice gratuitement. Justifié par la foi. La seule chose qu'on a à faire, c'est de croire. C'est d'avoir la foi dans ce cadeau. Et donc la grâce. Mais après, la vérité. La vérité. Et ça, quelquefois, c'est pas en opposition, mais c'est en harmonie. Parce que la grâce, oh, tout est permis, je peux aller faire ça, faire ceci. Oui, vous pouvez, c'est vrai, la grâce est tellement immense. Mais après, il y a la vérité de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui va vous aider, ce qui va vous rendre heureux et ce qui va miner votre vie. Et c'est facile de dire les quatre vérités aux autres, mais il faut commencer à dire les quatre vérités à soi-même. Et après, demandez à votre meilleur ami, je suis comment ? Comment c'est de vivre avec moi ? Est-ce que c'est facile ? Mais après, il faut avoir la grâce, parce que quand quelqu'un te dit les quatre vérités, il faut beaucoup de grâce. Et quelquefois avec Dieu, c'est comme ça. Une vraie relation de disciple avec Dieu, c'est beaucoup de grâce, mais aussi quatre mots de vérité. La grâce, vérité, grâce, vérité. Donc je vous encourage de laisser ces deux mains de Jésus guider votre vie, grâce et vérité. Bon, je vais un peu redéfinir ces mots. Je vais vous donner, parce que j'aime bien l'Ancien Testament aussi. Et donc quelquefois je dis, mais qu'est-ce que je pouvais trouver les mots en hébreu sont des mots d'alliance souvent. Ce n'est pas juste un mot, mais c'est comme une alliance, c'est comme une bague. Les mots, ils étaient presque les signes de Christ même. Même avant Christ, Christ existait dans les mots d'alliance de l'Ancien Testament. Et donc là, j'ai deux mots que j'aime beaucoup, qui m'aident énormément. C'est des images de Christ pour moi. Mais il y a un mot pour grâce pour moi, que j'utilise beaucoup. Ce n'est pas littéralement la traduction de grâce, c'est plutôt mon idée de grâce, mais c'est le mot hesed en hébreu. Hesed, hesed. On traduit ça bienveillance en français, bienveillance, ou bonté. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est un amour indestructible, c'est un engagement, c'est une alliance de grâce. Et donc, souvent vous allez trouver, vous pouvez trouver ça dans beaucoup de versets, Néhémie 1:5 qui parle d'une alliance de bienveillance, une alliance de hesed, berit hesed. C'est vraiment une alliance, mais les versets que j'aimerais partager avec vous pour Hesed, hein, pour avoir cette Hesed sur le guidant, c'est en psaume 13. C'est le psaume de David. Et je pense que David, il faut imaginer David le réveillant. Il a encore une année devant lui, dum, en masse. Et tu sais, c'est un peu lourd, toutes ces responsabilités. Peut-être il a mal dormi, peut-être il a fait quelques erreurs. Et c'est pas évident. Il dit, bon, c'est bien beau, mais quand même. Et là, j'aime bien parce qu'il dialogue vraiment honnêtement avec Dieu. Et peut-être vous, de temps en temps, vous dialoguez comme ça avec votre pensée. Et donc, ça commence un peu mal, mais après ça améliore. Et il commence, il dit, oh Dieu, il commence à prier, jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Donc ce sentiment de rejet, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme ? Oh, j'aime bien quand David dit ça. Je ne suis pas le seul d'avoir des soucis dans mon âme. Et chaque jour, du chagrin dans mon cœur. Tu vois, la présence de Dieu n'est pas une illusion. On ne doit pas inventer une sorte de fausse réalité de « Oh, mais Jésus avec moi, tout va bien ». Non, mais c'est au travers de l'orage que Jésus brille d'un côté. C'est au travers de la vraie vie que Jésus est là. Et donc David, il parle de sa vraie vie. Il dit « J'ai du chagrin dans mon cœur. J'ai du chagrin dans mon cœur au début de cette année. Peut-être vous avez du chagrin dans votre cœur au début de cette année. » Et après, peut-être il y a des choses violentes qui vous arrivent, des ennemis, des frustrations. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand j'aurai ces situations difficiles? Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Eh, il ne faut pas laisser filer une année comme ça, il faut activer le Hesed. Et après, il ne faut pas que je sois vaincu afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu !» Hein, c'est une histoire de victoire maintenant, d'être vaincu au vainqueur. Et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Et verset 6, « Mets-moi au début de 2020, mets-moi, j'ai confiance !» En ta bonté, en ton hesed, j'ai confiance en ton hesed. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai en chantant, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Hesed, hesed, hesed. Et après, le deuxième main sur l'autre guidon, c'est le chokma. Vous savez ce que ça veut dire, allez Jean-Luc, chokma. Jacques, chokma, sagesse. Sagesse, Hokma. Et donc il dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. La sagesse n'est pas intellectuelle, c'est une relation. Et cette crainte, c'est pas une phobie, mais c'est une, comment je peux dire, c'est la crainte de déplaire à quelqu'un qu'on aime. C'est la crainte de passer à côté de la plaque. Mais de dire, voilà Seigneur, je veux être avec toi. Et cette crainte, cette soumission, cette humilité, c'est le début, c'est le commencement de la sagesse. Et juste en Proverbe 8, hein, c'est un passage, hein, c'est le livre de la sagesse, hein, Proverbe. Et il y a beaucoup de choses qu'on pouvait dire avec ça. Mais juste le verset 34 de Proverbe 8, heureux l'homme qui m'écoute. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter. C'est grâce et vérité. Hein. La vérité, c'est aussi la sagesse. Hein, c'est heureux l'homme qui m'écoute. Allez, je vais écouter. Je vais avoir une oreille ouverte à la sagesse en 2020. Et cette sagesse se trouve vraiment dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Cette sagesse. Il ne faut pas être bête. Il y a des chrétiens qui disent, oh, il y a la grâce. C'est vrai, mais il y a la vérité, il y a la sagesse. Il faut agir sagement. Il faut écouter. Il faut être culturellement adapté. Il faut être socialement adapté. Il faut savoir comment faire des choses. On ne fait pas l'économie de notre cerveau quand on est chrétien. La grâce ne couvre pas. C'est pas grave. Si, c'est grave. Faut agir avec sagesse. Mais cette sagesse, c'est une attitude de cœur. C'est pas une capacité intellectuelle. C'est une attitude de cœur. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Et un avertissement, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Il ne faut pas être bête en 2020. Il faut accueillir la sagesse. Et voilà, je vais terminer avec une dernière parole. Encore grâce vérité, mais je vais traduire ça dans un sentiment de victoire. Et donc, Johan, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il a? C'est, il faut le vélo, mais il faut aussi marcher. Et là, Johan, il marche avec quoi? Nike. Il a dit Nike. Et il faut marcher en Nike en 2020. D'accord? Il faut marcher en Nike en 2020. Allez, je ne vais pas adorer Nike, mais voilà. C'est, voilà, Nike. Est-ce qu'il a Nike Air? Oh, c'est pas. Oh, c'est Nike. Oh, juste Nike, Nike. Et comme je dis Nike, pourquoi je dis Nike? Parce que, allez, je vais vous donner un verset pour expliquer tout ça. Apocalypse 12. C'est Apocalypse 12. Ça montre la bataille de l'Église. Ça montre l'intercession. C'est une image d'intercession. La femme enceinte qui crie pour enfanter le royaume de Dieu. C'est comme si elle crie que ton règne vienne. Et Israël et l'Église, le peuple de Dieu qui intercède. Mais cette intercession est attaquée par un dragon qui s'appelle l'ancien serpent, Satan. Et Satan, en hébreu, ça veut dire l'adversaire. L'adversaire. Et il y aura, vous avez malheureusement en 2020 un adversaire, d'accord? Il y a un adversaire. Et c'est lui qui est derrière le péché, c'est lui qui est derrière la mort, c'est lui qui frustre les nations, quoi. C'est pour ça que ça va si mal. Il y a une longue histoire qui va jusqu'à Éden. Mais on voit en image toute cette réalité de combat spirituel. Verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Et donc après, il est verset 10, maintenant est arrivé le salut ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Et c'est déjà et pas encore. On est dans une sorte de tension. Christ a déjà vaincu, mais cette victoire sera pleinement accomplie. Et après, verset 11, c'est ça où je veux vous donner. Parce qu'il dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu l'adversaire. Ils ont vaincu Satan. Ils ont vaincu le diable, tout ce qui est ennemi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et donc, grâce, vérité, hesed, hokma, sang. Ça, c'est une incarnation de grâce. Sang. Le sang de Jésus. Et il ne faut pas avoir peur de proclamer le sang de Jésus. Et voilà, Seigneur, ce sang témoigne sur ma vie. Surtout quand l'accusateur des frères, il vous accuse. Il y a le sang qui plaide pour moi. Il y a le sang de Jésus qui plaide pour moi tout le long de 2020. Et moi, je suis victorieux, pas à cause de mes propres forces, mais à cause de Jésus-Christ. Et quand Jean, en Apocalypse 5, un ange lui a dit, ne pleure pas, regarde, le lion de Juda a vaincu, Nike. Nike, c'est le mot grec pour vaincre, d'accord? Nike. Avec la victoire ailée. Mais c'est le mot, chaque fois, on dit Nike. Nike, Nike, Nike. Il a vaincu, c'est victoire, victoire, victoire. Nike, Nike, Nike. Et il dit, voilà, le lion de Juda a vaincu Nike. Et après, il se tourne comme ça, et il voit un agneau, un tout petit agneau. Ça veut dire un tout petit agneau qu'on immolait. Et donc, le vaincu est devenu vainqueur. Le vaincu est devenu vainqueur. Et peut-être, vous allez sentir vaincu quelquefois. Mais le vaincu, à cause de la grâce, à cause de la vérité, à cause de la hesed, à cause de la hokma, à cause du sang. Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, la parole de Dieu. J'ai vu Jean-Luc qu'aujourd'hui, on encourage l'Église à aimer la parole dans la prière. À aimer la parole. Donc, il faut aimer la parole. Parce que cette parole incarne Christ en nous et nous donne la victoire. Et encore en Romains 8, hein, ils disent que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et donc là, c'est vrai, vous n'avez pas Nike Air, c'est juste Nike, mais je vais marquer. Hein, quelquefois, on peut payer quelqu'un pour dessiner hein, sur les bottes. Je vais y mettre hyper Nike. Parce que plus que vainqueur, c'est hyper Nike. Hein? Hyper Nike. Hyper Perissos Nike. On est plus que vainqueur. Être hyper Nike. Et donc, les mains de Jésus sur mon guidon. Grâce et vérité. Hesed Hokma. Son et parole. Son et parole. Pour vaincre. Pour avoir une année 2020. Nike. 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 Et pour les jeunes de banlieue. Les jeunes de banlieue. Moi, je veux dire, avoir une année 2020, NTA. NTA. Nike, ton adversaire, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour la victoire de tes mains sur mon guidon, Seigneur. Mon vélo, Jésus le guide, sûrement. Avec lui, je file en chantant. Danger, péril, je ne les craindrai plus, car au guidant sont les mains de Jésus. Avec lui, je file en chantant. Et Seigneur, merci pour Seigneur ta parole de grâce. Merci pour ta vérité. Merci pour ton chesed, ton amour indestructible sur ma vie, ta bonté. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté en 2020. J'ai confiance. Donne-moi la confiance. Renouvelle ma confiance en ta bonté, Seigneur. Et merci que je suis plus que vainqueur par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Merci que je suis hyper Nike pour 2020. J'ai la victoire. J'ai la victoire en moi, Seigneur, par la grâce de Dieu. Et donc, Seigneur, que ta bénédiction repose sur chaque personne ici. Et Seigneur, aide-moi à marcher en Nike en 2020. Au nom de Jésus. Amen. Amen.